En introduction, si vous le permettez, j'aimerais davantage lire avec vous un texte du Nouveau Testament dans l'Évangile de Luc. Parce que vous allez voir qu'il y a une concordance entre l'Évangile de Luc et ce que Jésus dira avec ce témoignage de l'Ancien Testament. Évangile de Luc, chapitre 22 et verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison « Le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Et il vous montrera une chambre haute, meublé. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Nous avons là ce que nous les chrétiens nous appelons l'institution de la scène, la Sainte Cène. Et si vous allez un jour en Israël, et peut-être qu'on ira ensemble d'ailleurs, ce jour arrivera certainement, si vous vous promenez dans les différents monuments de Jérusalem, à un moment donné, on vous invitera à vous rendre dans une certaine maison et vous visiterez le Cénacle, l'endroit où la scène a été instituée, qui, semble-t-il, est au même endroit que là où les disciples se sont réunis le jour de la Pentecôte, la fameuse chambre haute où le Saint-Esprit est descendu. C'est ce que certains vous diront. Le fait est que cet événement de la Pâque et cet événement de l'institution de cette scène que Jésus a célébrée reste un événement majeur malgré tout, parce que ce qui va se passer ce jour-là va marquer l'histoire du monde entier. Depuis ce temps-là, l'histoire du monde a changé à cause de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'aimerais vous l'expliquer en quelques mots simples, et je souhaite que vous ne voyez plus la Pâque et surtout la fête de Pâques de la même manière. Je voudrais que elles prennent, si cela est nécessaire, si cela est possible, un peu plus de sens pour vous. On a pas mal déformé dans notre christianisme moderne la fête de Pâques, puisque aujourd'hui, quand vous parlez à peut-être, je ne sais pas, 75-80% des Français de la Pâque, et que vous leur demandez quelques symboles de Pâques, ils vous parleront des cloches, certainement, ils vous parleront des œufs de Pâques, certainement, et manque de peau aujourd'hui, ce n'est pas l'idéal pour aller les chercher dans le jardin. Mais bref, voilà, on vous parlera de Pâques. On se souviendra certainement que c'est dans ce week-end-là que Jésus a été crucifié, un week-end comme celui-là. Mais de là à faire un parallèle avec le sens de la Pâque, il faudra peut-être un peu plus d'explications. Alors on va aller vers ces explications parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, enseigne à ses disciples dans le texte que je vous ai lu que précisément il va souffrir. Et il précise, il va souffrir parce qu'il va s'offrir. Il va donner sa vie. Il va livrer sa vie. Il va accepter de mourir. Et la Bible nous enseigne qu'il est mort en sacrifice. C'est d'ailleurs le dernier chant que l'on a pris ensemble, un si grand miracle, un sacrifice parfait. Jésus a accepté de donner sa vie. Jésus a accepté de mourir en sacrifice, en fait, pour payer un prix que vous et moi devions payer. Et évidemment, il nous était impossible de l'honorer, impossible de payer la dette, puisque le prix était en quelque sorte spirituel. Quand quelqu'un a une dette, Il va aller trouver les personnes adéquates en demandant une remise de dette, un étalement de la dette, ou alors, si possible, un effacement total de la dette. On essaiera, forcément. Mais quand la dette est hors d'atteinte, vous faites quoi, vous? Quand c'est totalement hors d'atteinte et que, matériellement, il n'y a pas de solution, on va vous en offrir aucune. Qu'est-ce qu'il vous reste? Un mécène, quelqu'un de généreux qui acceptera de payer pour vous. Eh bien, la Bible nous enseigne que c'est ce que Jésus fera en donnant sa vie à la croix. Et je terminerai tout à l'heure avec cette notion-là. En donnant sa vie à la croix, il a accepté de payer ta dette, ma dette. Il a accepté de payer le prix. Et en faisant cela, en acceptant le prix de notre condamnation et en donnant sa vie à la croix, il a de surcroît expié nos fautes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et il l'a montré à la croix. Alors la conséquence de tout cela, c'est ce que nous entendions dans le témoignage tout à l'heure. Le salut vient habiter nos cœurs, le pardon est quelque chose que nous ressentons, la rédemption, la justification, pouvoir regarder Dieu face à face sans avoir à rougir, sans avoir à craindre ou à baisser les yeux. Mais Dieu nous permet de relever la tête et Dieu nous permet de retrouver un équilibre intérieur, personnel. Et ça, ça fait tellement de bien. Alors si Jésus est mort lors du week-end de Pâques, j'aimerais vous dire que cette date n'est pas le fruit du hasard. Ça faisait pas mal de temps qu'il cherchait à lui mettre la main dessus d'ailleurs. La Bible nous enseigne que bien auparavant, on avait essayé de l'arrêter, on avait essayé de l'interpeller, mais qu'à cela ne tienne, personne n'avait pu le faire. Plusieurs raisons à cela. Une première notamment, c'est que la foule regardait Jésus comme un prophète, comme un homme de Dieu. Pensez donc, il avait tellement fait de miracles. Et si demain vous rencontrez un bienfaiteur, et si quelqu'un veut lui faire du mal, vous le défendrez certainement. Donc la foule défendait Jésus, parce que Jésus était un bienfaiteur, il faisait du bien. Il a béni, il a guéri, il a délivré de façon tout à fait extraordinaire. Mais depuis le temps qu'on cherchait à lui mettre la main dessus, ce jour est arrivé. Et ce jour n'est pas arrivé par hasard. Mais ce qui est un concours de circonstances n'est autre que le choix de Dieu. Il fallait, ça ne pouvait pas en être autrement d'ailleurs, il fallait que Jésus meure précisément à la date de Pâques. Il ne pouvait pas mourir à un autre moment. Il ne pouvait pas mourir à Noël, il ne pouvait pas mourir au mois de juin, il ne pouvait pas mourir au mois d'octobre. Ce n'était pas possible. Il devait mourir à la Pâque, à la période de Pâques. Parce qu'en Israël, la fête de Pâques est certainement la fête la plus importante. Il y en a quelques-unes de fêtes importantes en Israël. Mais la fête de Pâques, si vous allez vous promener maintenant, les dates correspondent à peu près. Si vous allez vous promener en Israël durant cette période de la Pâque, mais vous allez avoir un monde fou, énormément de religieux qui auront fait le voyage, soit de tout le pays, soit de l'extérieur du pays, d'autres pays, des Juifs qui veulent aller célébrer la Pâque à Jérusalem. Ça représente quelque chose. Mais ça ne représente pas la mort de Jésus pour eux. Ça représente la délivrance qu'ils avaient vécue, que leur peuple a vécue des siècles auparavant, du temps de Moïse. Et c'est là où je veux en venir, du temps de Moïse. Il s'est passé quelque chose de tout à fait incroyable, quelque chose d'extraordinaire, et c'est pas un mythe, c'est pas une fable, Pascal, c'est une vérité. Hein. On va lire ensemble le contexte de ce passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 2 tout d'abord. Je lirai avec vous plusieurs passages dans l'Exode, au chapitre 1, 2, 3, 4, 5, mais quelques courts versets, et vous comprendrez mieux le sens de ce qui s'est passé du temps de Moïse. Donc, un premier texte, Exode, chapitre 2, verset 23. Livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion Gloire à Dieu. Dieu s'est souvenu de la détresse de ces gens-là et il a décidé de les bénir. La fête de Pâques pour Israël, pour ces Juifs, représente ni plus ni moins la fin de l'esclavage. Ça faisait des centaines d'années qu'ils subissaient l'esclavage. Certains textes parlent de plus de 4 siècles et pour être plus précis, 430 années d'esclavage. On ne devient pas esclave par volonté personnelle en général. Ce n'est pas un désir que chacun aura de dire « Tiens, en se réveillant un matin, et si je me livrais comme esclave, ce serait pas mal. » Personne ne va imaginer ça, c'est impossible. Et il y a combien d'histoires qui commencent bien et qui finissent mal ? Parce que cette histoire avait tellement bien commencé. Si vous remontez quelques siècles auparavant, vous apercevrez que c'était une belle histoire. Elle avait bien démarré, sauf que, on se rend compte, et c'est dans le chapitre 1er, à partir du verset 8, que toutes les histoires que l'on peut vivre, et même les projets que l'on pourrait formuler, sont souvent d'excellents projets. Et on aimerait tellement qu'ils se réalisent, mais alors, parce qu'on planifie tout, hein. D'ailleurs, dans mes projets les plus fous, j'étais pas loin d'être le meilleur, le plus fort, le plus intelligent. Et bref, tout allait bien. Hein. Et je pense que vous avez fait le même rêve. Se disant, voilà comment j'imagine ma vie. Il n'y aura jamais d'anicroche, il n'y aura jamais de soucis, il n'y aura jamais de problème. Tout va être parfait. On imagine tous les mêmes choses. Sauf que la réalité nous rattrape. Et il y a des événements totalement imprévisibles qui nous laissent quelquefois malheureusement un peu confus. Parce qu'on ne comprend pas, il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Au départ, la Bible dit que le peuple d'Israël, qui ne vivait pas en Égypte, mais qui vivait assez loin de là, a vécu un temps de grande détresse, de grande famine. Et l'un des leurs, par un truchement aussi miraculeux, s'est retrouvé quasiment premier ministre de l'Égypte. Et quand il apprendra que chez lui, ça ne va pas bien, eh bien, il sollicitera son père, ses frères, il sollicitera sa famille en leur disant, écoutez, moi, je vous conseille de venir me rejoindre en Égypte parce que la vie est belle en Égypte. Quand vous êtes numéro 2, en général, la vie est belle. Quand vous êtes numéro 1, elle est peut-être plus belle. C'est quand vous êtes numéro 428e millionième derrière que la vie, elle est moins belle. Mais en général, quand vous êtes tout en haut, ça va pas trop mal. Et Joseph dira à sa famille, c'est le message qu'il leur dira, venez ici et le pharaon prendra soin de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la famille, ils étaient 70. Toute la famille a émigré. Ils venaient pas d'Espagne, mais d'un peu plus loin. Ils ont émigré, ils se sont installés en Égypte et le pharaon leur a disposé un bel endroit. Il leur a offert le territoire de Goshen, une belle vallée qui était tellement bien arrosée. Et ils vont les placer là, dans un endroit qui n'était pas habité d'ailleurs, dans un endroit à part, parce que finalement le pharaon, bien sage, n'a pas voulu qu'il y ait de promiscuité et de conflit. Alors il a séparé ces juifs de ces égyptiens et en fait il leur a donné toute liberté de vivre leur culte, de vivre leur croyance, d'être ce qu'ils avaient toujours été, bergers, etc. Allez-y, cette terre est à vous. Il leur a offert une terre. C'est extraordinaire. L'histoire commence bien. Et la Bible dit dans l'Exode, chapitre 1er, verset 8, le temps va passer. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon, mais plus on l'accablait, et plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux. Amen. Ils leur rendirent la vie amère. Combien d'histoires commencent bien et malheureusement, il y a un grain de sable ou alors un rocher tombe sur la machine tout entière et ça se disloque, ça se brise, ça se casse. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Ils se sont retrouvés dans une situation totalement sans solution. Et vous voulez que je vous dise, c'est quand précisément tout est perdu que la foi seule aura le pouvoir d'éveiller l'espoir à nouveau. C'est quand on n'a plus d'espoir que l'on peut se confier en Dieu. C'est quand on craque, c'est quand on n'en peut plus, c'est quand on est désespéré, c'est quand on a fini de se tourner vers ceux qui peut-être auraient pu nous tendre la main que l'on peut croire que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Alors fini, l'esclavage, c'est le message que Dieu va leur lancer. Et il va préciser cela dans le chapitre 5, toujours de l'Exode, au verset 1er. Chapitre 5, il est dit ceci, « Moïse et Aaron sont missionnés par Dieu pour aller trouver le Pharaon, pour lui dire, maintenant, c'est terminé, Dieu va s'occuper de nous et il nous rend la liberté. » Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Laisse aller mon peuple. » C'était ça le message. « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Sauf que, il ne suffit pas d'avoir envie. Faut-il encore en avoir les moyens ? Et les mots, quelquefois, pourraient vous faire perdre courage. Pharaon, en entendant cela, verset 2, va répondre, « Qui est l'Éternel ?» pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Il ne suffit pas de dire, « Bon, j'en ai marre de ma vie, je ne m'en sors pas, demain ça change. » C'est bien de le dire et je vous encourage à le dire. Hein. Mais quelquefois, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. En fait, c'est bien d'y penser. C'est bien de le dire, mais on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être épaulé, on a besoin d'être éclairé, on a besoin d'être aiguillé, on a besoin de cela. C'est exactement ce qui va se passer pour le peuple d'Israël. Le premier texte que je lisais tout à l'heure disait que les enfants d'Israël ont crié à Dieu et Dieu a eu compassion d'eux. Crié à Dieu et Dieu a entendu leur requête. Il a entendu leur prière. Il a entendu leur souffrance. Et Dieu a envoyé Moïse. Moïse est quelqu'un qui avait la double culture. Il avait grandi en Égypte. C'est quelqu'un qui parlait très bien égyptien. Mais Moïse a vécu 40 ans dans le désert. Il avait dû fuir. C'est une vieille histoire. Sauf que le pharaon est mort, qu'un autre est arrivé sur le trône et qu'il va falloir allez lui expliquer que maintenant l'esclavage c'est terminé, l'oppression c'est fini. J'aimerais vous dire une chose, c'est que quand il ne vous reste plus rien, Dieu existe encore. Quand il ne vous reste plus rien, Dieu reste là encore comme la solution. Quand Moïse et Aaron vont aller trouver le Pharaon, Moïse ne va pas essayer d'être diplomate, hein. Il ne va pas essayer de le gagner avec un cadeau, quelque chose. Non, rien de tout cela. Mais il va être clair, il va être précis et il va dire « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » On ne peut pas faire plus clair. Hein. J'imagine que le Pharaon a été un petit peu vexé de la sorte et c'est pour ça qu'il dira « Mais attends, attends, moi je ne connais pas ton Dieu et jamais ce peuple s'en ira. » La troisième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que face à de telles difficultés, le peuple ne pouvait pas se défendre tout seul. Et finalement, souvent, face à nos difficultés, comme je le disais il y a un moment, on ne peut pas se défendre tout seul. On aimerait, mais on n'y arrive pas. On a des moments où on est plein d'espoir et d'autres moments où on est totalement découragé. Donc on a besoin d'être aidé. Il faut à tout prix que l'on soit aidé. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour ce peuple. Parce que quand Dieu a décidé de bénir ce peuple, il est dit au chapitre 3 et au verset 10, Dieu se révèle à Moïse qui traîne un petit peu les pieds, n'a pas trop envie de retourner en Égypte, mais Dieu met la pression, il faut que tu y ailles. Et il va insister en lui disant ceci, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » En fait, quand Moïse arrive auprès de ses anciens, auprès de ses parents, auprès du peuple d'Israël, il n'est pas en train de leur dire « Bon, vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous inquiétez pas, je suis là. » Il leur dit pas ça. Il leur dit « Vous avez des problèmes, je suis venu, mais c'est Dieu qui m'envoie. » C'est ce qui fait la différence. C'est Dieu qui m'envoie. Et cet après-midi, on n'est pas en train de vous dire « Faites-nous confiance. » On est en train de vous dire « Faites confiance à Dieu. » Il a envoyé Moïse et il nous a envoyé sa parole pour que l'on soit guéri. Il nous a envoyé sa parole pour que nos yeux s'ouvrent, pour que notre cœur s'ouvre à sa grâce et pour que tout change. C'est ce qu'il a fait. C'est précisément ce qu'il a fait. Alors évidemment, c'était un langage difficile à accepter pour ce fameux Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout simplement parce que Moïse est la voix de Dieu et le bras de Dieu, il va y avoir un rapport de force. Et de là, les fameuses 10 plaies de l'Égypte. Vous en avez entendu parler, des 10 plaies. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont assez amusantes. Hein. Il y en a une avec des grenouilles. Vous avez entendu parler de la plaie des grenouilles ? Une grenouille, ça va. 3 grenouilles, ça peut aller. Mais quand vous en avez des centaines, des milliers, vous imaginez, il y en avait dans les maisons, il y en avait de partout. Vous allez vous coucher, il y en a dans le lit. De partout. Bon, pas dans le frigo, il n'y avait pas de frigo. Hein. Mais de partout, une infection. Ça, c'est un exemple. Mais il y a eu des mouches venimeuses, il y a eu ils ont été couverts d'ulcères, il y a eu des sauterelles qui ont envahi le pays, qui ont mangé littéralement toutes les céréales, tout ce qu'il y avait. Des calamités, des plaies. On n'est pas en train de parler d'un dessin animé, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est arrivé pendant un quart d'heure et qui s'en est allé. Dans certains pays, d'ailleurs, du Moyen-Orient, ça arrive assez régulièrement. Hein. Vous avez tout d'un coup des nuages sombres qui arrivent. Ce n'est pas la pluie. Hein. Ce sont des vols de sauterelles, de criquets. Ça se pose en des endroits, ça vous mange tout. Et c'est bien difficile de les faire partir, bien difficile. Le résultat, c'est que tout ce que vous avez semé, le fruit de votre travail, de toute une année, est réduit à néant. Et si vous n'avez pas de réserve, vous mourrez de faim. Et des enfants mourront de faim, des adultes mourront de faim, parce que les sauterelles sont passées par là. Il y a eu des plaies telles dans cette tragédie de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Égypte. Mais ce que je voulais mettre en avant, parce que dans cette bataille-là, contre vos peines, contre vos douleurs, quelquefois on a l'impression de se battre contre le diable même. C'est pas possible. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Vous savez pas ce que vous lui avez fait, mais lui sait ce qu'il veut vous faire en tous les cas. Et il veut bien vous détruire, il veut bien ruiner votre vie d'une manière ou d'une autre. Il essaiera de faire en sorte que les calamités s'abattent les unes après les autres. Certains ont pensé qu'une grosse catastrophe pouvait écraser et laminer quelqu'un, c'est certainement vrai. Mais certains raffinements dans le domaine de la torture ont montré que, quelquefois, une simple goutte d'eau qui tombe sur votre tête peut devenir un supplice abominable. Quand il en tombe, des milliers. La première est légère, la centième est irritante, la 10 000e pèsera peut-être 50 kilos sur votre crâne. Supplice chinois, a-t-on dit un jour. Terrible. Et là, quelque part, on se rend compte que dans ces moments-là, on ne peut pas être seul. J'aimerais tellement vous encourager, ne vous battez pas tout seul. Arrêtez. Arrêtez de vous battre tout seul, arrêtez de lutter tout seul. C'est trop difficile. Alors vous avez besoin d'une aide forte. Et cette aide-là, vous l'avez et vous l'aurez auprès de Dieu. Les plaies vont s'abattre les unes après les autres. Et Pharaon va résister à chaque fois. C'est quand même terrible. Une première plaie, ces magiciens feront de même. L'eau changée en sang. Une deuxième plaie, les fameuses grenouilles, les magiciens en feront autant. Il n'y en avait pas assez, ils en ont rajouté. Une troisième plaie, ils feront autant. Puis à la quatrième, les magiciens sont débordés. Magiciens. Ils vont dire au Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Là on ne touche pas. Là on ne peut rien faire. Là on est dépassé. Et le Pharaon se tournera vers Moïse en disant « Prie Dieu qu'il enlève la plaie. » et après je laisserai aller le peuple. » Alors Pharaon, Moïse va s'exécuter, et une fois qu'il n'y a plus le problème, une fois qu'il n'y a plus la difficulté, le cœur de Pharaon se referme immédiatement. Et il dira « Non, 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 le peuple reste là. » Et la cinquième, et la sixième, et la septième. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose d'encourageant pour le peuple d'Israël. J'aimerais le lire pour vous. Chapitre 8, verset 18. Chapitre 8, verset 18. Il est question de mouches venimeuses, une plaie. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Chapitre 9, verset 11. Tous les Égyptiens ont été couverts d'ulcères. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Chapitre 9, verset 26. Il y a eu des orages de grêle terribles. Et puis il est précisé, « Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. » Chapitre 10, verset 23. Encore une plaie, obscurité. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Une obscurité, la nuit noire. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Et un dernier, malheureusement, parce que c'est terrible, au chapitre 11 et au verset 7. Parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remua sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y aura toujours une différence entre celui qui se bat avec l'aide de Dieu et celui qui se bat tout seul. Vous entendez, il y aura toujours une différence. Quand Dieu est avec vous, vous sentez la différence. Et si Dieu est avec vous, vous verrez la différence. Vous avez vu la différence que Dieu a marquée ? La grêle. Vous imaginez, la grêle, elle tombe partout, sauf au milieu. Au milieu ou dans un coin. Tout autour, il y a de la grêle et à cet endroit-là, il n'en tombe pas. Mais comment est-ce possible ? Les ténèbres, l'obscurité. Vous imaginez ces Égyptiens qui n'osaient même pas se lever de peur de se taper les uns dans les autres, de prendre un obstacle. Et au loin, ils voyaient la lumière qui était précisément là où habitait le peuple de Dieu. Là où habitait ce peuple que Dieu préservait. Et je pourrais parler des ulcères et des autres choses, de ces fameuses mouches. Dieu est en train de dire à Pharaon, arrête de me résister, tu ne le peux pas. Tu ne le peux pas, je les accompagne, je suis avec eux, regarde. Sans moi, regarde la tragédie, et avec moi, regarde la différence. Cet après-midi, avec Dieu, il y aura de la différence dans votre vie. Avec Dieu, il y aura de la différence dans votre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui vous le dites. C'est Dieu qui vous le dit. C'est vous qui pouvez le comprendre quand je vous lis ces textes. Réalisez qu'avec Dieu, ça fait la différence. Cette dernière tragédie du chapitre 11, c'est quand Dieu prévoit qu'il y aura une mort dans toutes les maisons de l'Égypte. Quelqu'un mourra, un enfant mourra dans toutes les maisons de l'Égypte. C'est la dernière plaie. Et c'est celle-là qui fera craquer Pharaon et qui fera dire à Pharaon, lorsque Moïse se présentera une dernière fois devant lui, « Pars, pars, ne reste pas là, va-t'en avec ton peuple, partez, je ne veux plus vous voir. » Je me suis posé la question en me disant, pourquoi est-ce que Dieu a frappé aussi dur ? Faire mourir quelqu'un dans toutes les maisons ? Parce qu'il est dit que dans toutes les maisons, c'est le premier-né, l'aîné, si vous voulez, qui allait mourir. Mais dans toutes les maisons, il y en a un. Vous, vous êtes l'aîné peut-être de vos parents, et vous avez des enfants, il y en a bien un qui est l'aîné chez vous. Enfin bref, ça ne s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que tout le monde a été atteint. Tout le monde, ce n'est pas dans une famille où vous avez les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, qu'il n'y en a qu'un qui est mort, il y en a 4 qui sont morts. Toutes les générations sont passées par cette terrible mort. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans le fond, peut-être que Dieu aurait pu faire autrement. Mais vous savez d'où est venue cette terrible condamnation ? De la bouche même du Pharaon. De la bouche même du Pharaon. Parce que si je lis, la dernière fois que Pharaon s'est mis en colère contre Moïse, il est dit au chapitre 10 et au verset 28, « Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, sors de chez moi avant que les enfants meurent. Sors de chez moi, garde-toi encore de paraître en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Mais quelque part, cette parole s'est retournée contre lui. Vous voulez vivre, Dieu vous amènera à la vie. Si vous voulez tuer Dieu, c'est vous qui mourrez. Lui ne mourra pas, de toutes les manières. La malédiction s'est retournée contre eux. Et Dieu se servira de cela en instituant, au chapitre 13 de l'Exode, cette fameuse fête de Pâques. Cette fameuse fête de Pâques. J'arrive à la fin de mon histoire en vous rappelant que cette dernière tragédie, c'est comme une condamnation hein, qui sort de la bouche même du Pharaon. Mais vous, cet après-midi, Dieu ne parle pas de condamnation, il parle de délivrance. Alors invoquez-le. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, dira l'apôtre Paul, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. J'en viens à la fin, parce que la fin, c'est un commencement, finalement. Dites-moi, quand quelque chose arrive à la fin, ça veut dire que quelque chose d'autre commence, hein, forcément. C'est la fin, on a tourné la page. Ça veut dire qu'il y a une page blanche, il y a quelque chose à écrire encore. Et Dieu va écrire l'histoire de ce peuple d'une façon extraordinaire. Au chapitre 13, l'institution de la Pâque, et au verset 3, au chapitre 12, vous avez tout le récit, au chapitre 13 et au verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Alors, pour sortir de l'Égypte, il faudra montrer sa foi. Et comment devront-ils faire ? Tout simplement en obéissant au commandement. Quel était le commandement ? Dieu dira à Moïse, « Tu ordonneras que dans toutes les maisons juives, dans toutes les maisons d'Israël, on prenne un agneau d'un an, beau comme tout, sans défaut. Et cet agneau, vous allez le sacrifier, vous allez le tuer et vous allez le manger. » Vous allez le faire rôtir, vous allez le manger avec des herbes amères. Il y avait tout un cérémonial. Mais le sang, vous allez le mettre à l'extérieur de votre maison, sur les poteaux et le linteau. Curieuse attention. Certains ont pu dire, mais non, on va se faire remarquer, pourquoi on ferait ça, etc. Mais c'était un signe. Et Dieu dira, cette nuit-là, l'ange exterminateur va passer. Et là où il verra du sang, il saura que dans cette maison, un agneau, si ce n'est pas un agneau, ça pouvait être éventuellement autre chose, si on n'en avait pas, un autre animal, vous le direz. Mais quand on verra le sang, l'ange dira, tiens, on a sacrifié un animal. Ça veut dire que des gens ont cru la parole que Dieu avait prononcée. Alors là-dedans, il n'y aura pas la mort, il y aura la vie. Et l'ange passait au-dessus. Et d'où le mot Pâques d'ailleurs. Pessa, ça signifie passer au-dessus, passer outre. Et cette nuit-là, l'ange est passé. Et partout où on a vu du sang, la condamnation est passée au-dessus. La condamnation ne les a pas atteints et personne n'est mort dans ces moments-là. Tout à coup, la mort de Jésus à la Pâque prend tout son sens. Et je réalise pourquoi il fallait que Jésus meure et que son sang coule. Sans effusion de sang, dira l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de pardon, c'était l'histoire de la Pâque. Et je vous ferai remarquer que pour racheter les offenses, Dieu a décidé qu'un animal mourrait. Et il vaut mieux que ce soit un animal qui meure plutôt qu'un être humain, hein, évidemment, évidemment. Et c'était ça, le sens du sacrifice. Dieu n'a jamais voulu la mort de l'innocent. Dieu n'a jamais voulu la mort d'un être humain, non jamais. Par contre, le diable, oui. Alors pour vaincre cette terrible condamnation, qui n'est le fruit que du péché, hein, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, et voilà ce qui leur est tombé dessus. Et vous, vous vivez avec ces conséquences, parce qu'on est tous dans le même bateau. Eh bien, le seul moyen d'en sortir, c'est de croire ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, quand il donne sa vie. Il meurt pour vous sauver. Il meurt pour vous. Vous comprenez pourquoi Jésus dira « Tout est accompli » ? Mais c'est pour ça. C'est uniquement pour ça, pour que vous soyez délivrés et sauvés. Alors, dans l'évangile de Luc, vous le lirez, après le texte que j'ai lu, au chapitre 23, lisez-le ce soir, chapitre 23 de l'évangile de Luc, vous avez la crucifixion de Jésus. Jésus avait dit « Je ne mangerai plus ce pain, je ne boirai plus cette coupe avec vous, il me faut souffrir. » Il va livrer sa vie. Alors que la foule est là et crie « Crucifie-le, crucifie-le », comprennent même pas ce qu'ils sont en train de demander. Mais il y avait le plan de Dieu derrière tout cela. C'était Pâques, c'était Pâques. Même Jésus, voyant la haine de ces gens-là, va s'adresser à Dieu et va dire « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. « Père, pardonne-leur. » À tel point que, quand Pilate se lavera les mains en disant « Je suis pur du sang de ce juste. » C'est dans la Bible, hein, il s'est lavé les mains, Pilate. « Je suis innocent du sang de cet homme. C'est vous qui voulez le crucifier. Moi, je voulais le relâcher. » Beaucoup de ces Juifs diront que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils auraient mieux fait de se taire. Quelle catastrophe à travers tous les siècles. Ce sang qu'il aurait retombé dessus. Ouais. N'empêche que, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur », les mots échappent, ça va trop loin, beaucoup trop loin. « Père, pardonne-leur ». Le sens de tout cela, vous l'avez précisément au moment de la croix, parce que Jésus a été crucifié entre deux hommes. La Bible précise deux brigands. Bon, un brigand qui meurt, c'est un voyou de moins sur la terre, bon débarras. Hein. C'est quand même quelqu'un qui part dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il a raté dans sa vie pour être là ? Qu'est-ce qu'il a raté comme rendez-vous pour se retrouver là ? Le fait est que Dieu est capable de pardonner tout le monde. Tout le monde. Et ce brigand, tout à coup, réalise qu'il a raté sa vie, qu'il a gâché sa vie. Alors il s'adresse à Jésus et, repentant, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ma vie s'achève, ma vie s'arrête, destruction complète, c'est triste. Mais souviens-toi de moi. » Et quelle bonne nouvelle il entendra le jour de Pâques. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la plus belle des paroles qu'il pouvait entendre. J'aimerais que Dieu parle à votre cœur et que vous entendiez cela. « Aujourd'hui, tu es sauvé. Aujourd'hui, je te sauve de tes détresses. Aujourd'hui, je te délivre de tes tourments. Aujourd'hui, je te délivre de tes angoisses. » Avec Dieu, le nouveau départ, ça existe. Avec Dieu, la liberté est une réalité. Permettez-moi de vous citer juste, avant que l'on prie ensemble, un texte dans une lettre que l'apôtre Pierre va rédiger au chapitre 1er de sa première lettre. Il dira ceci au verset 18. « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Amen. Que votre foi et votre espérance cet après-midi reposent sur Dieu et sur Dieu seul. Avec lui, tout est possible. Avec lui, ça fait toute la différence. Amen. Voulez-vous prier avec moi ? S'incliner ensemble quelques instants et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, nous venons devant toi encore parce que ta parole est tellement encourageante. Ta parole est tellement belle. Ta parole est tellement précieuse. Elle nous enseigne tellement de vérité. Et tu nous as rappelé au travers de la belle histoire du peuple juif que tu mets fin au tourment, à la servitude, à l'esclavage, à l'oppression. Tu mets fin à toutes nos galères, tu mets fin à toutes nos peines. Et quand toutes ces choses-là s'arrêtent, alors c'est une vie nouvelle qui redémarre. Et je prie pour que quelqu'un te trouve cet après-midi et que ce soit une vie nouvelle pour lui, pour elle, et qu'il puisse découvrir la vie avec Dieu. Il n'y a pas d'âge pour découvrir une vraie relation avec Dieu. Il n'y a pas d'âge pour te rencontrer. Je te bénis pour cela, parce que tu as accueilli les enfants. Et tu as parlé à un homme comme Nicodème qui avait de l'âge. Tu as parlé à des gens qui avaient leur vie derrière eux. Que dire de ce brigand qui n'a que quelques, peut-être, quelques minutes à vivre, mais tu l'as sauvé pour l'éternité. Alors je prie que tu fasses cette œuvre-là cet après-midi et que plusieurs te trouvent enfin et mettent fin à leur recherche parce qu'ils t'auront rencontré. Merci de ta grâce, merci de ta bénédiction, merci de ces moments passés devant toi, Seigneur. Amen.